Et bonsoir et bienvenue dans Génération Africa. Ça y est, c'est malheureusement la dernière pour nous ce soir avant cette magnifique et grande finale qui nous attend dans une heure. Le Sénégal qui va défier le Maroc à Rabat pour la finale de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations. On est ravis d'être avec vous. On va vous emmener jusqu'à cette finale pendant une heure. On va analyser toutes les dernières infos. On va vous donner les compos d'équipe pour ce dernier grand rendez-vous de cette CAN. Et puis surtout, on va revenir sur les joueurs marquants de la compétition. Et quel avenir peut se tracer à partir de ses performances. Pour en parler, ils étaient déjà là hier pour la petite finale, le match pour la troisième place, et ils sont ravis d'être là de nouveau. Et nous aussi, on est contents de les avoir. Sébastien Piocelle et Sam Vasselin. Salut les amis.
Salut Alex.
Salut, salut Alex.
Tous.
Salut.
Ça y est, je sens en vous la petite nostalgie, la petite.
Je sais pas si c'est ça ou c'est l'envie d'être à 20h
ouais,
voilà.
Ouais, t'as envie d'être
parce que maintenant qu'on a fait la petite, on veut faire la grande finale. Hein.
Après, on peut zapper l'émission et puis on attend 20h direct.
En plus, c'était la folie hier, la petite.
Faut qu'on patiente.
T'as envie de revoir le match peut-être avant de
jouer. Ouais, j'ai revu deux fois, j'arrive pas à dormir.
Il y a un résumé long de 35 minutes, on peut y aller.
C'est magnifique. On va forcément se projeter sur les chiffres avant cette finale parce qu'il y a beaucoup de chiffres parlants entre le Sénégal et le Maroc. Je vous rappelle juste qu'on est en direct sur YouTube, sur le compte de l'After Foot. On est en direct aussi sur l'After Foot TV et puis on est à télécharger en podcast sur le site rmcsport.fr. Génération Africa, la dernière, la finale, une finale qui se dessine en vitrine mondiale avec ces deux équipes, le Sénégal et le Maroc. Franchement, c'est la finale rêvée, ce sont les deux favoris avant la compétition, c'est vraiment ce qui s'est tracé, ce qui pouvait se faire de mieux hein, par rapport à tout ce qu'on a vu. On est très content d'avoir cette finale à Rabat dans moins d'une heure maintenant. Un petit côté chiffré, vous allez voir qu'en termes de confrontation, ce sont deux équipes qui sont déjà affrontées par le passé, mais c'est quelque chose d'inédit ce soir parce que ça va être la première fois qu'une finale de Coupe d'Afrique des Nations se décide entre le Maroc et le Sénégal. Ça ne s'était jamais produit auparavant et c'est la première fois depuis 96 que c'est une finale inédite puisque voilà, encore une fois, ces deux nations ne s'étaient pas affrontées en finale. Vous voyez les confrontations directes, toutes compétitions confondues entre le Maroc et le Sénégal, ça sera la 32e ce soir. Net avantage, Seb et Sam, au Maroc dans l'histoire. Hein. Mais bon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut.
J'aurais pas dit qu'il y en avait autant. Moi, j'ai pas de.
Toutes compétitions confondues.
J'ai pas en tête de Maroc-Sénégal, même à la.
Enfin, il y a eu la CHAN, il y a eu dans des éliminatoires de Coupe du Monde.
Peut-être le CHAN ou les éliminatoires, mais c'est vrai qu'à la CAN ou dans un match couperé, par exemple, pour une qualif de Coupe du Monde. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première fois ce soir que je les vois se disputer un tel enjeu.
Bah, c'est une première finale. Déjà, ils vont s'affronter. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de match marquant, en tout cas, qui vient.
Même un quart, un demi.
En tout cas, gros avantage pour les Marocains au niveau des chiffres.
Au niveau des chiffres, ouais. C'est clair et net. Dans l'histoire, en souvenir, si on essaye de remonter un peu plus proche, il y a eu des éliminatoires, notamment de Coupe du Monde, qui sont souvent décidées entre les deux. C'était le cas en 94, puisque le Maroc avait participé à la Coupe du Monde en battant le Sénégal. C'était ainsi qualifié pour le Mondial 94, mais vice-versa.
J'étais pas né.
On t'excuse, bien évidemment. Merci de nous dire
ça. Disons qu'il n'y a rien vraiment de récent qui fait que, pour les acteurs actuels...
Je peux me rapprocher un peu plus proche de nous dans l'histoire. 2002, Coupe du Monde mémorable pour le Sénégal, quart de finaliste. Et bien dans les éliminatoires, il y avait eu match nul entre le Sénégal et le Maroc. Et à la différence de but, ça avait permis au Sénégal de se qualifier pour un mondial derrière qui fut mémorable pour eux. Et évidemment, 20 ans plus tard, c'est le Maroc qui fera un mondial mémorable au Qatar en 2022. Mais il y a une histoire qui se dessine. On sait que ce sont deux nations qui sont proches, déjà géopolitiquement.
Le Sénégal joue la France pour pouvoir jouer le Maroc avant, finalement.
Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. Donc, on l'a vu, 32 confrontations. Ça sera pour ce soir une inédite en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des mots à dire et des chiffres à dire aussi sur l'historique des finales de Coupe d'Afrique des Nations. Une finale, c'est souvent un match âprement disputé, mais souvent dur à s'ouvrir. On espère que ce soir, on aura justement un jeu plutôt ouvert et beaucoup d'occasions et un match très vivant, parce que sur l'ensemble de la compétition, si on doit émettre une petite critique à cette édition-là, c'est qu'elle a été très bien organisée dans l'ensemble. Le niveau a été assez élevé dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim, sur des surprises qui manquaient dans ce tournoi et sur le contenu de beaucoup de matchs en phase finale notamment qui auraient pu nous régaler un petit peu plus, même si encore une fois le Maroc et le Sénégal ont entièrement mérité leur place en finale.
Disons quoi, le schéma, le format, pardon, à 24, on savait qu'il y aurait très peu de surprises.
Si on n'a pas en poule, généralement, il y en a un peu derrière. Voilà. Quoi.
Et ensuite, sur les matchs à élimination directe, c'est vrai qu'on n'a pas eu... c'est pas forcément qu'il y avait des matchs fermés, c'est que je pense qu'en termes de niveau, c'était assez proche, avec des façons de jouer un peu différentes en fonction des nations. Mais comme quoi, pour arriver au bout, c'est-à-dire au moins en finale, c'est un vrai parcours pour ces deux nations. Ça a été assez équilibré. On a vu...
Je dirais pas fermé, mais c'est vrai que Seb, quand on revoit les demi-finales, l'Égypte qui a totalement déjoué face au Sénégal, le Nigeria qui a été l'ombre de lui-même
Alors ça, c'est face soit t'as deux équipes vraiment qui décident d'aller vraiment de l'avant, mais
il y a peut-être eu un écart avec justement les deux finalistes qui étaient clairement au-dessus de l'eau au final.
L'approche n'a pas été bonne de l'Égypte et du Nigeria pour ces demi, pour moi en tout cas. Et Shell nous l'avait dit avant le match en disant je vais leur laisser ballon, je vais pas attaquer, alors que
mais c'est là-dessus sur lequel je tique un peu sur le niveau global.
Plus,
mais
moi,
justement...
plus j'irais plus l'Égypte quand même qu'à déjouer. Alors que sur l'aspect, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt Regragui, enfin le Maroc qui a gagné la bataille tactique.
Bien sûr.
Parce que je pense que c'était un peu plus de l'esbroufe de la part d'Eric Schell, mais à l'arrivée,
il a été obligé de jouer comme ça.
Ils se sont bien fait contrer tactiquement.
On continue de
Après,
vous
c'est
abreuver
pas mauvais
de chiffres.
Pour une compétition pour la santé, l'état de santé de la compétition, qu'il y ait peu de surprises. Ça veut dire finalement que toutes les grosses équipes étaient au rendez-vous. C'est plutôt le cas ce qui s'est passé dans cette CAN. Le Sénégal et le Maroc sont les deux meilleures équipes africaines. Elles ont été très compliquées à prendre. Ça m'étonne pas qu'elle soit en finale.
Je pense que c'est plus pour le storytelling et pour les amoureux pour nous, de sensations et de petites saveurs supplémentaires.
On a toujours besoin d'avoir la petite belle histoire, etc. On l'aura pas forcément eu, mais je trouve encore une fois que le niveau de la compétition était plutôt bon, personnellement.
Parce que t'as des petits bonbons dans cette phase finale, comme le but de Boulbina, par exemple, qui sont des petites choses que tu retiens facilement sur les autres buts dessinés. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus des chefs-d'œuvre de mémoire, mais voilà, c'est vraiment pour émettre des toutes petites critiques avant d'abord.
Attention, on va dire que t'es anti-marocain.
Mais non. En plus, c'est sur la CAN globalement. D'autres chiffres sur cette finale, alors qu'on va regarder quand même ensemble le tableau de cette phase finale pour juste mettre un point d'exclamation sur ce Sénégal-Maroc, voilà, en finale. C'est concernant cette stat pour les pays hôtes. Le Maroc, qui devient donc le 15e pays organisateur à atteindre la finale de la CAN, les trois derniers hôtes à l'avoir fait, c'était la Tunisie en 2004, l'Égypte en 2006 et la Côte d'Ivoire en 2023. Et le dernier pays hôte à avoir été battu en finale, en revanche, c'est le Nigeria en 2000, donc ça date.
Avantage Maroc, là aussi, sur ça.
Eh bien, justement, tu fais possible à dire 12 victoires en finale de Coupe d'Afrique des Nations pour les pays hôtes. Donc voilà, le Maroc, on l'a vu dans les confrontations directes, avantagé face au Sénégal. Et visiblement, le poids de l'histoire indique que les pays hôtes sont souvent là pour remporter le trophée.
Il y avait une cote aussi ce matin dans les paris RMC là, sur les trois précédentes finales du Sénégal. Donc
2019, 2022 et 2020.
Combien de buts marqués ?
2026. Zéro.
Ouais, toi, tu maîtrises.
Il y avait eu 0-0, il y avait eu tir au but.
Zéro contre le Cameroun en 2002, zéro contre l'Algérie en 2019, zéro contre l'Égypte en 2021.
Ouais. On en viendra à nos paris après, mais c'est, ouais, c'est vrai que...
c'est vrai. Non, c'est marquant, mais on a bien compris que ça penchait du côté marocain sur les chiffres. Mais encore une fois, les chiffres, on peut leur dire tout et n'importe quoi. C'est pas forcément vérifié.
C'est ce que tu fais depuis
tout à l'heure. Moi, je dis toujours n'importe quoi. Après, les chiffres viennent au milieu. Non, les chiffres viennent au milieu, bien sûr.
Je suis content d'être au milieu.
Après, on peut toujours rappeler que le Sénégal est venu pour gâcher la fête, et etc. etc. Donc voilà.
C'est juste, mais après, ça reste
je voulais attaquer l'émission en abreuvant tout le monde de chiffres. Parce que comme ça fait un trop plein de chiffres et après on est débarrassé de ça. Parce que j'ai une horreur justement de tous les chiffres autour des finales et c'est pour ça que je voulais le faire en premier. Et comme ça on met ça de côté.
T'as raison.
Non ?
Non,
Seb, c'est le mathématicien, il voulait qu'on parle des chiffres.
Non, c'est bien. Non, pas du tout. Non. On passe à autre chose.
On passe à autre chose.
On dit la mauvaise nouvelle d'abord. On peut après passer. Les bonnes nouvelles,
voilà. Est-ce que le 4-3-3, tu sais, on parle de chiffres du coup 4-3-3
Non, là, 4-2-3, ça va, c'est autorisé. Ah. C'est autorisé. Mais on fera les compos un peu plus tard. D'accord. D'abord, on va parler surtout de vitrine, puisque c'est franchement une finale qui aura un retentissement mondial. Je pense qu'au niveau de cette CAN, ça a été le cas sur l'organisation, on le disait, grâce à tout l'investissement mis en place par le Maroc. C'est une finale qui va être suivie mondialement. ans. Et d'ailleurs, pour le dire de manière avérée en France, ça n'a pas été le cas à chaque édition que la France diffuse en clair une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera le cas cette année. Voilà, nos confrères d'M6 qui vont diffuser cette finale de la CAN. Mais ça n'est pas arrivé non plus très souvent dans l'histoire, ce qui veut dire qu'il y a un retentissement mondial. Il y a un attachement forcément à la France, puisqu'il y a deux joueurs qui sont passés par la France avec Sadio Mané à Metz, forcément. Achraf Hakimi qui joue au PSG. C'est là-dessus où je voulais vous emmener, puisque cette finale aussi, c'est une vitrine, mais aussi grâce à deux stars mondiales, grâce à deux cracks. Achraf Hakimi d'un côté, Sadio Mané de l'autre. Et c'est une finale qui va se décider aussi sur le talent de ces deux hommes.
Et qui vont en plus être face à face. Pour le coup, réellement.
Sur la pelouse, oui.
Sur la pelouse, ils sont liés littéralement dans le même couloir. Non, c'est les deux symboles de leur équipe, même s'ils sont les vitrines, tu l'as dit, les porte-drapeaux, mais ils ont quand même avec eux deux très grosses nations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on ne pourra pas se dire à la fin du match qu'Achraf Hakimi ou que Sadio Mané a remporté la finale tout seul, même si ils font un match exceptionnel. On a forcément aussi deux grands collectifs à côté qui se préparent pour cet événement. Donc en fait, c'est eux, c'est encore une fois les capitaines, les généraux de ces deux belles armées footballistiques, hein, bien sûr, qui ont été construits par les deux équipes. Donc ça illustre aussi le tout le travail et le talent de ces deux nations, c'est d'avoir en plus de ça deux joueurs qui sortent de la norme et qui aussi forcément ont plus à jouer ce soir que la finale de la CAN, parce que un succès dans cette compétition pour notamment pour Achraf Hakimi, beaucoup plus que pour Sadio Mané aujourd'hui.
Parce qu'on rappelle, Hakimi n'a pas encore de CAN, alors que voilà. Mané, lui, l'a en 2021.
C'est ça, et puis au-delà de ça,
sa dernière, par contre.
Hakimi, c'est un joueur qui postule au Ballon d'Or aujourd'hui, même si moi je ne suis pas un grand fan des débats sur le Ballon d'Or, mais il n'est pas passé loin l'an dernier. Imaginons que le PSG regagne, je ne sais pas, une Ligue des Champions cette saison, ou fasse encore une grosse prestation en Ligue des Champions, et qu'Hakimi ait une CAN en plus, ça continuera à avoir des arguments dans la balance. Donc pour eux, c'est des matchs importants aussi, mais je pense surtout que c'est le collectif qui sera intéressant pour les faire briller, eux.
Ouais, deux légendes, que ce soit sportivement, mais même... humainement, tout ce qu'ils représentent, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils véhiculent pour leur pays, avec deux générations aussi différentes. Voilà, ils ont pas le même âge, ils ont pas encore le même palmarès. Après, c'est malgré tout, alors que Hakimi est défenseur. Là aussi, c'est toujours plus compliqué.
Il est considéré comme le meilleur à son poste, voilà, au monde actuellement.
C'est toujours plus compliqué d'être catégorisé légende en étant latéral droit, même si c'est latéral droit moderne, avec beaucoup de stats, même si le poste de latéral aussi évolue énormément.
Grâce à Hakimi notamment.
Notamment, ouais. Et c'est vrai que au-delà d'avoir ces deux nations en face là, c'est qu'ils vont se retrouver. C'est les deux capitaines ce soir, du coup, puisque Koulibaly est suspendu.
Et peut-être qu'il le donne pas à Ganagay, il avait dit.
C'est Idrissa.
Ouais, je crois que c'est. Mais je vais voir peut-être plus... comme je vais voir pour qu'il soit peut-être capitaine.
Ouais, mais
du coup,
si Gay sort, t'inquiète, c'est Sadio qui récupère.
Mais en tout cas, oui, c'est vrai.
Le fait
qu'il se retrouve en plus face à face sur le terrain, ça va donner aussi le ton de cette finale.
Achraf Hakimi, Sadio Mané, au-delà des qualités footballistiques, c'est assez amusant parce qu'on a affaire à deux mégastars, mais aux personnalités très discrètes. C'est ce qui les caractérise aussi. Ce sont deux garçons qui, sur le fond, se ressemblent là-dessus. Ce ne sont pas du tout des garçons qui aiment se mettre en avant en général. Et au final, c'est grâce à ça aussi qu'ils sont aussi populaires, chacun dans leur pays, mais parce que ce sont vraiment de véritables portes étendards, en fait.
Avec deux histoires totalement différentes. On a un joueur qui est issu de la diaspora, qui a été formé au Real Madrid, qui pour le coup a toujours choisi le Maroc, hein, très rapidement, mais voilà, qui a grandi dans le plus grand club du monde et qui derrière a eu, je sais pas si c'est la modestie ou l'intelligence d'apprendre à grandir dans d'autres clubs pour devenir
Dortmund, voilà, l'Inter,
exactement,
hein,
pour devenir encore plus grand que ce qu'il aurait pu être s'il était resté dans le plus grand club du monde, justement Real. Et à l'inverse, on a un Sadio Mané qui a commencé à l'académie, qui est passé par le FC Metz, qui est passé par les clubs qu'on appelle tremplin satellite en Europe, notamment Leipzig, qui a fait son petit trou en première ligue avant de rejoindre un monstre de première ligue avec qui il a refait gagner un titre 30 ans après, et il en est devenu et une Ligue des Champions, et il est quasiment devenu Ballon d'Or avec cette histoire-là. Donc c'est vrai que c'est quand même deux histoires fascinantes. Hein. S'il y a des sites de streaming qui veulent se mettre dessus, je suis sûr que la série marche. Hein. Donc c'est vrai qu'au-delà de... C'est ce qui est toujours intéressant pour raconter comme histoire, au-delà du joueur, comme tu as dit, il y a la légende de l'homme autour qui vient nous mettre un bon petit plat bien mijoté sur cette histoire.
Ce qui sert la vitrine justement de cette CAN, franchement, si elle est autant exposée et aussi facile à raconter, c'est aussi via ces deux personnages.
Mais la similitude avec les deux, c'est que ils sont porte-drapeau aussi de leur pays. T'as des joueurs par exemple qui vont être très performants en club et qui vont être très très bons en club, voire même des stars en club, mais qui vont
crouler sous la pression nationale.
Qui vont en sélection être des très bons joueurs, mais lambda, et inversement. Alors que les deux, voilà, c'est vraiment les porte-drapeaux de leur génération. Encore une fois, même s'ils n'ont pas le même âge, et puis ils gagnent en fait aussi. Alors bien sûr, tu disais Hakimi, ça serait malgré la demi-finale de Coupe du Monde, ça reste qu'une demi-finale, c'est pas un titre. Ça serait en plus de ça dans son pays de gagner cette CAN-là. Je pense qu'il est déjà très très haut. Mais je pense qu'avec une victoire à domicile, ça serait l'un des joueurs marocains les plus grands de tous les temps.
Oui, et puis aussi, pour lui, je pense, ce soir, ce qui est intéressant dans sa finale, c'est que Achraf Hakimi, ça me fait un peu penser, alors, à des contextes totalement différents, mais s'il réussit sa finale, qu'il est l'homme décisif ce soir, il y a un petit côté Zidane 98, c'est-à-dire que on attendait tous Achraf Hakimi sur cette compétition, pour des raisons sur lesquelles il peut pas grand-chose, notamment le fait qu'il ait été blessé, eh ben, il a commencé sa compétition petit à petit, le Maroc a dû se trouver d'autres hommes forts, d'autres circuits, et ça a été très bien fait par Egraghi, et si pour l'histoire, il vient nous faire une finale où il en met il nous met un coup franc, il nous fait une frappe de 30 mètres, il marque comme il a pu le faire contre Dortmund, contre l'Inter en finale de Ligue des Champions en mai. Et ben là, on dira, ben voilà, Achraf Hakimi en plus a donné la CAN au Maroc. On oubliera tout ce qui s'est passé depuis un mois où bah, le pauvre c'était pas la meilleure version de, même si ça a été très correct, hein, d'Achraf Hakimi. Et donc voilà, l'histoire sera encore plus belle, la légende sera encore plus facile à raconter.
Et un petit peu synonyme de notre époque aujourd'hui, c'est que la consommation est rapide et que cette CAN, il va falloir la consommer très rapidement, puisque dans 4 mois, il y aura la Coupe du Monde et ses donations.
Je crois que tu disais 4 jours après, le PSG joue à Auxerre.
Alors, il y aura d'abord le Sporting, où Hakimi n'y sera clairement pas.
Ça, c'est sûr.
Peu importe ce qui se passe ce soir. En revanche, la question est posée sur sa présence normalement face à Auxerre ou pas. Vendredi prochain, je crois, en Ligue 1. Bon, ça sera quelque chose de géré après, je pense, la finale. Mais concernant la...
Peut-être l'impasse sur Auxerre pour être là sur la 8e journée de Ligue des Champions.
Je pense qu'on lui pardonnera.
Peut-être.
Dans 4 mois, il y a une Coupe du Monde. Ces deux nations sont concernées par cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que Sadio Mané a dit que lui, c'était sa dernière CAN à 33 ans. Il y a quelque chose à faire aussi en Coupe du Monde dans 4 mois pour le Sénégal qui, on rappelle encore une fois, sera le premier gros adversaire de la France. Il y aura aussi pour Hakimi et le Maroc un gros client avec le Brésil. À digérer pour Hakimi, par exemple, s'il y a une victoire ce soir sur la CAN, est-ce que ça peut te libérer pour des compétitions suivantes ou au contraire, est-ce que ça peut t'enlever peut-être un peu de flux en te disant que tu as accompli le truc qu'il fallait absolument accomplir?
Enfin, moi, je trouve que ça te donne plutôt de la confiance. Comme tu as dit,
ça servira peut-être plus collectivement qu'individuellement.
Ouais, mais c'est des joueurs qui sont tellement habitués à se remettre en question.
Et à jouer des finales.
À jouer des finales, à jouer des matchs de très haut niveau que, mis à part la fatigue, ils en redemandent. Donc ça peut donner que de la confiance. Et aujourd'hui, encore une fois, tu parlais de la France pour le Sénégal ou du Brésil pour le Maroc. Aujourd'hui, bien sûr que, on va dire que t'as ces nations-là qui pourraient être favorites, Mais maintenant, maintenant, ils se regardent droit dans les yeux. Je veux dire, c'est des matchs où on n'est plus 20 ans en arrière.
Ah oui,
où
bien sûr.
Tu sais que quand la France va affronter le Sénégal, on connaît tous les joueurs en face. Voilà, on sait l'équipe.
On est pas serein, disons,
exactement. Et ça sera pareil pour le Brésil avec le.
Le Brésil qui est pas du tout, qui dégage pas du tout une image très forte. Mmh. Il y a même des grosses interrogations au pays même. Et le Maroc dans ce groupe-là peut.
Donc pour revenir à ta question, ce qu'ils veulent, c'est remporter le trophée qu'il a remporté là, et puis et ils auront le temps de se reconcentrer. Moi, je pense que ça donnera beaucoup de confiance.
Pour moi, il y a deux cas de figure. Le Maroc, pour moi, s'ils gagnent la CAN, par exemple, ils ne sont pas loin d'être favoris de leur groupe pour moi, à la Coupe du Monde. Même avec la présence du Brésil.
C'est une discussion de toute façon qui est amenée sur le statut et sur le papier ce soir.
Non, et puis parce que le Maroc sera dans une logique de progression, ils auront fait déjà quatrième de la dernière Coupe du Monde, donc faudra les respecter, peu importe d'ailleurs le résultat de ce soir.
Ça rejoint le dialogue, le discours tenu par Walid Regragui d'ailleurs ces derniers jours.
Et moi je l'ai dit encore hier, peu importe le résultat pour moi ce soir, le Maroc aura fait quatrième de la dernière Coupe du Monde. Ce sera un peu raté en Côte d'Ivoire, même si j'avais quand même trouvé qu'on était dans la prolongation des idées de ce qu'il avait pu faire en 2022, et aura fait une finale de CAN en 2025 avec pour moi une équipe qui est beaucoup plus impressionnante. Je crois qu'il y a 12 joueurs du Maroc qui étaient là en 2022, et quand on regarde la liste, ceux qui n'y étaient pas, on se dit ah ouais, mais c'est pas mal quand même d'avoir rajouté dans son équipe El Aïnaoui, d'avoir rajouté dans son équipe Salah Eddine sur le côté, d'avoir rajouté qui c'est qui n'était pas là, Brahim Diaz. Voilà, tout simplement Saïd Barry,
Ben Seguir qui est bon,
c'est vrai que c'est quand tu vois en fait tous les joueurs qui se sont rajoutés depuis, tu te dit, cette équipe, elle est en progression, donc elle arrivera avec quand même un certain statut.
Et la moitié des joueurs du Maroc sont formés au Maroc. Le dernier passage avant de signer son contrat pro, pour la moitié de l'équipe, c'était au Maroc. Et pour le reste, on l'a vu, c'est éparpillé partout en Europe. C'est pas juste la France, c'est Italie, Angleterre, Pays-Bas, Espagne.
Et le Sénégal fait quand même un huitième de finale en 2022 après avoir gagné la CAN. Donc on a vu que ça leur avait donné une certaine pression, et parce qu'ils avaient un statut à assumer. Ils l'ont assumé, ils sortent contre l'Angleterre. C'est vrai qu'ils avaient fait aussi, ils s'étaient ratés contre les Pays-Bas lors du match d'ouverture pour eux, mais globalement le Sénégal avait assumé son statut et avait à la Coupe du Monde été sorti des poules, ce qui n'est pas toujours le cas des équipes africaines, y compris d'une équipe championne d'Afrique en titre, et qui en plus, bon voilà, bute sur une équipe qui derrière se fait éliminer par l'équipe de France, qui est double finaliste de l'édition et vainqueur en 2018, donc bon.
Ah. Non, pour revenir à Sadio Mané ou à Achraf Hakimi, le seul truc, c'est que bon, s'il annonce sa dernière CAN, c'est que ça sera aussi sa dernière Coupe du Monde, forcément. Et par contre, j'ai du mal pour l'instant à identifier le joueur, on va dire, qui va pouvoir le remplacer.
C'est vrai.
Et pourtant, c'est quelqu'un quand même d'assez introverti et qui est une star par rapport à ses prestations, par rapport à ce qu'il fait en dehors du terrain, tout ça. Mais alors que Achraf Hakimi, dans un autre contexte, ça reste entre guillemets un défenseur. Et tu te dis que il sera plus facilement, même si lui il va pas arrêter maintenant, plus facilement peut-être remplaçable. Mais là, je vois pas, alors qu'il y a beaucoup de talent au Sénégal, je vois pas aujourd'hui quelqu'un qui a le leadership, l'aura en
il
fait.
Il est peut-être pas connu encore, mais
oui, je l'identifie pas. J'aime beaucoup Iliman Ndiaye, par exemple. Voilà, Sadio Mané, ça reste encore.
Qui n'a pas, disons-le, Sadio Mané qui est pas comment dire, une personnalité ultra extravagante devant les caméras, ça reste une personne très très respectée par rapport à tout ce qu'il a fait, son parcours. Aucun joueur du Sénégal aujourd'hui n'aura le respect qu'a Sadio Mané par rapport à ce qu'il a fait, parce que personne n'a fait ce que Sadio Mané a fait en club, etc. Mais c'est vrai qu'il faudra voir, peut-être qu'un Bay, il est encore un peu jeune, parce qu'on pourra dire, lui il a gagné avec des champions avec le PSG, mais peut-être qu'il est dans un rôle mineur, il est encore un peu jeune, peut-être qu'on va pas confier à la prochaine Coupe du Monde ou CAN à entre 19 et 23 ans une telle responsabilité. Donc moi je pense que ça va être aussi intéressant de voir le Sénégal après la Coupe du Monde, du coup, voir si ce collectif est aussi capable de pallier à l'absence de Sadio Mané, parce que elle est là la force du Sénégal, c'est qu'il y a 28 joueurs qui pourraient être titulaires sur la feuille de match.
Je veux digresser un petit peu par rapport à ce thème où on a mis en avant Sadio Mané et Achraf Hakimi, mais je voulais vous demander, et un peu en miroir par rapport à ces deux hommes, si cette CAN 2025 va pas marquer un tournant, parce que c'est une finale aussi qui représente la réussite dans la construction du football de ces deux nations, parce que ce sont des projets de longue date, et ça recolle un petit peu ce qu'on était en train de dire sur les successions et sur le renouvellement de génération. On sait que le Sénégal éparpille partout en Europe d'excellents jeunes footballeurs chaque année. Le Maroc, ça devient le cas également quand on voit ce qu'a sous la main Walid Regragui. Est-ce que ça va marquer un avant-après ? Est-ce que là, pour beaucoup de pays africains, pour beaucoup d'autres nations, ça va être le coup d'œil vraiment très visible de se dire, mais en fait, il faut qu'on arrive à faire...
Est-ce que c'est deux exemples, par exemple, c'est ça que tu veux dire ?
Bah, complètement.
Pour les autres pays ?
Est-ce que ce sont deux exemples ? Parce que surtout, ce sont des exemples qui réussissent, au final, on le voit.
Oui. Non, mais ça, c'est une certitude. Après, il faut que...
Il faut avoir les moyens.
Il faut avoir les moyens, il faut qu'il y ait une volonté politique du pays. Parce que avoir les moyens, bon, ça.
Là, je parle en termes de locomotive au final.
Oui, complètement.
On a deux exemples vraiment marquants en 2025. Est-ce que c'est pas vraiment quelque chose, cette CAN ne sert pas de tournant pour l'histoire du football africain à venir ?
Ouais, mais Seb, il met le doigt sur un problème qui est capital. C'est le développement en Afrique. Et là, on sort du cadre du football tout court. Quand on regarde aujourd'hui la situation du Sénégal et du Maroc, on se rend compte que c'est deux pays très développés, deux pays où il y a énormément d'infrastructures qui ont été créées. Et là, je parle à tous les niveaux. Il y a des défauts hein, pour ceux qui y vivent et qui me diront « ouais, mais si, ça, c'est vrai hein. ». Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, en termes d'infrastructure, il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Et donc forcément, le football a été entraîné dans cet élan. Le Maroc, aujourd'hui, il y a très peu de pays en Afrique qui ont les installations, les infrastructures, la stabilité
après,
politique.
Après, sans forcément les mêmes moyens financiers, mais au moins des idées semblables.
Ça joue parce que justement...
Mais après, les idées, c'est une chose, les mettre en place, c'est...
Parce que regarde, le Sénégal, par exemple, n'a pas la même stabilité. Le Sénégal, on peut aussi parler dans du vivier.
Ils n'ont pas les mêmes moyens que le Maroc.
Et des fondations surtout. Ouais. Parce que la fédération au Sénégal a pu aussi, par le passé, entre guillemets, faire avoir des décisions qui pouvaient impacter l'équipe nationale. Au Maroc, pour le coup, il y a un homme qui s'appelle Legja qui incarne ça et qui incarne une telle discipline, un tel plan. Et on le voit dans les résultats que tout est très cohérent. Donc oui, ça doit être une locomotive et un modèle. Mais
je
malheureusement.
Je ne me sens pas convaincu par le fait que ça sera.
Non, mais moi, en fait, je prends par exemple le Gabon.
Tournant cette année, quoi.
Non, mais Alex, moi, je prends le Gabon, qui est le pays que je connais le mieux en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait après avoir perdu la CAN ? On a viré tout le monde. Et pour deux semaines après, dire bon, en fait, on vous réintègre tous.
Je suis désolé, vous avez été vraiment le contre-exemple de tout ce que je viens de dire.
Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, avoir des politiques qui réfléchissent.
La Tunisie a envie de se remettre, doit se remettre en question de la même manière.
Ils sont chercher Sabri Lamouchi, quoi. Parce que est-ce qu'il y avait une idée, est-ce qu'il y avait un plan avec Sabri Lamouchi à long terme alors
mais c'est
voulait...
pas qu'une question de sélectionneur. Encore une fois, je pense que ça se passe tout en haut.
Ouais.
Ça se passe tout en haut. Et là, encore une fois, le fait qu'il y ait la Coupe du Monde en 2030
au Maroc,
forcément. Et là, on parle même pas que d'infrastructure. Je pense que c'est après ça va. C'est une question aussi de mentalité. Et que, quelque part, même tout le peuple marocain aussi, ça donne de la confiance, une visibilité. Mais pour ça, il faut que tout en haut, on décide d'aller sur ce chemin-là.
Très bien. On verra, en tout cas, s'ils se servent de cet exemple-là, même sans les mêmes moyens, ça pourrait donner des idées, on l'espère, pour le football africain.
En tout cas, la recette du succès, ils sont en train de montrer comment ça se passe. Hein.
Bah, c'est ça.
Hein. Après, si tu as envie de continuer à faire à ta sauce, c'est ton problème.
Voilà. Dans un petit peu plus d'une demi-heure maintenant, le coup d'envoi de cette grande finale entre le Sénégal et le Maroc. Et il est temps de vous donner les dernières infos et surtout compos des deux équipes qui vont s'affronter avec Johan Bredov qui nous a rejoint dans Génération Africa.
Salut messieurs,
ça va Johan.
Belle finale. Ah ouais. La finale entre les deux favoris de la CAN.
C'est ça.
C'est assez rare d'ailleurs qu'on ait les deux favoris qui arrivent en finale. Tu veux les compos ?
Je veux les compos et si on peut démarrer par le Sénégal s'il te plaît.
Allez, le Sénégal parce qu'il y a deux changements forcés pour les Sénégalais hein, avec les suspensions de Koulibaly et d'Habib Diarra, accumulation de cartons jaunes pour cette finale. Édouard Mendy dans la cage, ensuite on aura une défense à 4 avec Crépin Diatta, Mamadou Sarr donc, qui prend la place de Koulibaly, Moussa Niakate et Diouf, le joueur de West Ham. Un milieu à 3 avec Lamine Camara, Idrissa Gueye, le capitaine en l'absence de Koulibaly, Pape Gueye également est là au milieu de terrain. Et enfin en attaque, Illimane Ndiaye à droite, Sadio Mané à gauche pour épauler Nicolas Jackson, le joueur du Bayern Munich.
Cette compo-là
bah, c'est la compo de la deuxième période, de la demi-finale, puisqu'il avait déjà changé Diarra à la mi-temps. Si je me trompe
Koulibaly
pas.
Koulibaly blessé.
Ouais. Voilà. Logique pour démarrer. Il n'y a aucune surprise. Ouais, aucune surprise.
Aucune surprise. En même temps, on arrive à un stade de la compétition où tout le monde se connaît par cœur.
Après, c'est vrai que Mamadou Sarr, on aurait pu se dire, vu que c'était plutôt Sheik qui avait joué, Mamadou Sekh qui avait joué en poule, on aurait pu se dire qu'avec la jeunesse. Mais non, il rentre, il est quasiment parfait contre l'Égypte. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il va quand même jouer une CAN dans un stade de fou à 22 ans, je crois, Mamadou Sarr. Ouais, troisième ou quatrième sélection. C'est pas rien, mais moi ça me rappelle un peu, pour faire une analogie, à Sabo Mtiti en 2016, il y a 10 ans, qui, en fait, à partir du moment où tu rentres, t'es le meilleur, tu joues. Et si t'es bon, pourquoi ça se passerait mal ?
La compo du Maroc maintenant, Johan, tu vas nous abreuver de surprise.
Exactement, ouais, aucun changement. Voilà. Zéro changement par rapport à la demi contre le Nigeria. Yassine Bounou dans la cage, Achraf Hakimi à droite, Aguerd, Massina en charnière centrale, Mazraoui arrière gauche, un milieu de terrain à 3, El Aïnaoui, El Khanous et Saïbari. Et enfin, en attaque, on aura Brahim Diaz, qui est peut-être le meilleur joueur de la compétition, Ayoub El Kabi et Ez Abdé, le joueur du Betis Séville.
Ouais, donc on n'a pas touché à
et Ben
Seguir
en tribune, j'ai vu qu'il n'est même pas sur la feuille de match.
Ouais. Non.
Pour mettre Saïs qui, voilà, pour lui faire soulever le trophée si ça gagne.
Ouais.
C'est le respect des anciens.
Par rapport au poids de l'histoire, est-ce que représentait Romain Sey ? En plus, ce qui s'est passé en début de compétition le concernant, bon, c'est des choix toujours
Il aurait pu. Non, il n'avait pas le droit de venir sur la pelouse après en étant en tribune, Saïs, pour soulever.
Si, mais je crois qu'ils veulent quand même le faire rentrer. Ah. Je pense, parce que si tu vires Ben Seguir,
moi je suis pas trop pour ça, mais bon, après c'est.
De toute façon, s'il l'emporte, les deux soulèveront le trophée.
Mais
sera comptabilisé comme champion.
Peut-être qu'un Ben Seguir qui fait une bonne rentrée, alors peut-être qu'il est touché aussi et que c'est un choix de Regragui parce qu'il a vu s'entraîner. En plus, c'est un peu entraîné
par
Ben Seguir cette semaine, visiblement. Mais c'est vrai que bon, s'il était disponible.
Si je me trompe pas, il avait marqué son pénalty.
Exactement, c'est pour dire s'il était disponible, il a montré qu'il était capable d'être décisif, d'être là s'il y avait besoin sur une séance de pénalty notamment.
Bon, on a entendu les compos avec Johan. On a parlé déjà du duel Hakimi Mané, mais cette finale représente des duels franchement à tous les étages par rapport aux compos qu'on a entendus et par rapport à cette finale. Seb, Sam,
c'est les deux meilleurs effectifs de toute façon.
Mais est-ce que dans le match, tu attends certains matchs dans le match en particulier au-delà du Hakimi Mané?
C'est surtout la bataille du milieu de terrain. Là,
je sens que tu vas me sortir du chapeau El Aïnaoui.
Ouais, entre autres, mais aussi le repositionnement de Saïbari, la top canne de Pape Gueye où il faut pas trop le laisser armer parce que bon, il a le viseur en ce moment, donc
il y a Camara aussi qui aime bien les mines.
Donc c'est vrai qu'il faut voir comment ça va s'articuler. Il va y avoir, je pense, très peu de temps et d'espace dans certaines zones du milieu. Là, il va falloir voir avant de recevoir, comme on dit. Dans ce milieu-là, il y a vraiment de la qualité. Il y a de l'expérience, il y a de tout. Donc,
alors, bataille du milieu, c'est intéressant parce que quand on a vu comment Walid Regragui s'est adapté par rapport au Cameroun, par rapport au Nigeria, où justement ces milieux de terrain ont totalement éteint et fait déjouer les adversaires directs. Je pense à Carlos Baleba, notamment, qui était rayonnant avant cette confrontation-là. Je pense au milieu de terrain du Nigeria aussi, qui a eu beaucoup de mal à exister, qui s'est fait manger dans l'impact physique, mais aussi dans les lectures. Ce milieu de terrain-là, marocain, est-il la clé finalement pour remporter ce trophée ?
Surtout face à, pour moi, au milieu le plus complet qu'ils vont affronter dans la compétition, parce que rappelons que le Nigeria, Wilfried Ndidi était absent, et c'est pas n'importe qui pour moi dans l'équilibre du milieu de terrain des Super Eagles. Là, ils vont affronter justement une équipe qui, depuis le début de la CAN, est presque, alors pas du tout sur la même manière de jouer, mais en tout cas sur la manière de gérer les rencontres, qui est un peu la copie conforme du Maroc, c'est-à-dire finalement une équipe qui aime gérer sa rencontre, qui aime aller de l'avant, qui veut marquer des buts. Donc ça va être aussi intéressant de voir la bataille du milieu de terrain à ce niveau-là, parce qu'en fait, je ne pense pas que le Sénégal va, comme le Nigeria, au bout d'un moment, accepter qu'ils ont justement perdu cette bataille. Ils vont vouloir se battre tout au long du match. On a Idrissa Gueye qui peut, comme El Aïnaoui en face, mettre une très très grosse pression sur le premier relanceur. Donc c'est pour moi assez intéressant de voir le Maroc évoluer face justement à un milieu de terrain qui, pour moi, est un cran au-dessus de celui du Nigeria et deux, trois crans au-dessus de celui du Cameroun. Ouais.
Et je reviens sur Saïbari parce que de ces six milieux de terrain-là, c'est de base le joueur le plus offensif et c'est celui qui, pour moi, de ce qu'on a vu là sur les demi-finales, quart de finale, qui peut être le plus chiant, on va dire, à prendre, à analyser dans le timing de ses déplacements. J'ai hâte de le voir parce que c'est encore une fois il a mis qu'un but dans cette CAN, mais il faut voir aussi le nouveau rôle qu'il a. Et je trouve que
il disait les gens disent que je suis mauvais parce que je marque pas, mais il dit c'est pas parce que je marque pas que je suis pas bon. Il dit même le match où je marque c'est peut-être mon moins bon match.
Donc c'est vrai que je hâte de voir aussi comment il peut gêner encore une fois cette équipe du Sénégal.
Comme on aime bien faire des boucles dans cette émission, vous vous souvenez, on avait attaqué les premières minutes par les chiffres autour de cette finale, c'était pas pour rien. Avantage au Maroc dans l'ensemble sur ce que disaient les chiffres. Est-ce que sur les bancs de touche, il y aurait un avantage au Maroc quand on voit la CAN chahuter Walid Regragui, qui a réussi à faire taire beaucoup de bouches et qui a réussi à montrer qu'il avait une cohérence dans sa pensée tactique. Est-ce qu'il y a un avantage Walid Regragui par rapport à Pape Thiaw dans l'évolution tactique de ces deux nations?
Je te laisse la patate chaude, c'est bon.
Non, c'est pas une patate chaude. Comme je disais juste avant.
Il y a peut-être un sélectionneur qui a donné une meilleure impression.
C'est les deux meilleurs effectifs, donc ça veut dire qu'ils ont des cartouches tous les deux. Il y a de quoi faire.
Bravo à Pape Thiaw d'avoir géré aussi les égos.
C'est les deux meilleures gestions d'un effectif.
Voilà.
Ils ont concerné quand même beaucoup de joueurs et c'est vrai que. Par exemple, hein, Ismaïla Sarr, il était normalement plus programmé peut-être pour être un titulaire.
Il a démarré contre Botswana.
Voilà, il peut servir en sortant du banc. Je sais pas si on doit donner un avantage à tel ou tel sélectionneur.
Ouais, parce que nul, hein, Pape Thiaw.
Non, mais Pape Thiaw a effectivement très très bien géré son effectif aussi. Même Sadio Mané, dont il y a eu quelques critiques après le match contre le Bénin, il doit sortir un peu plus tôt, mais au final, on se rend compte que dans sa CAN, il est plutôt bien géré physiquement. Ça pouvait être surprenant de le voir sortir Habib Diarra dès la mi-temps contre l'Égypte, mais il voulait pas prendre de risque, pas qu'il y ait un carton rouge et que son équipe soit à 10. Donc moi, je trouve, et encore une fois, on n'a pas l'impression qu'il y ait de frustration dans son équipe. Donc
Pape Thiaw a très bien géré. J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins parlé de Pape Thiaw que de Walid Regragui.
Non, mais c'est vrai, c'est pour ça. Non, mais Pape Thiaw, et puis surtout, il prend la suite d'Aliou Cissé. C'est très très rare. Moi, je cherchais tout à l'heure, et tu vois, j'ai, pour te dire à quel point j'ai bugué, j'ai toujours pas trouvé dans mon cerveau. Un coach qui avait autant gagné avec son équipe, autant marqué plus que gagné, parce que Aliou Cissé, au-delà de la durée, c'est avoir gagné la première CAN, c'est avoir rejoué la Coupe du Monde, c'est avoir fait une Coupe du Monde où tu repasses les poules. Donc il a repassé plein d'étapes, Aliou Cissé. J'ai pas en tête de sélectionneur qui a pris derrière, à part peut-être Roger Lemaire et Aimé Jacquet en 2000, tu vois, pour donner un peu l'idée, et qui gagne derrière l'Euro 2000. J'ai pas d'idée de sélectionneur qui derrière arrive à s'y faire aussi bien que son.
Qui succède et qui maintient le niveau
élevé. C'est ça, et donc ça, c'est très fort de la part de Pape Thiaw. Maintenant, moi, je le redis. Et je m'étais pas énervé, mais j'avais trouvé ça anormal qu'on dise au bout de 3 matchs, ah, Regragui, il faut le sortir, il faut mettre Sektioui parce qu'on a fait pareil qu'Emersfaye il y a 2 ans et ça a marché. Ce que je trouvais assez ridicule, moi, parce que c'est quand même un all-in quand tu fais ça. Hein. C'est...
Genre, cette discussion-là ce soir, s'il y a des fêtes hypothétiques du Maroc, elle ne tient pas.
Moi, franchement, je trouverais qu'elle
change pas Regragui, aujourd'hui, si
Regragui ne fait pas la Coupe du Monde avec le Maroc, à part s'il y a 12-0 pour le Sénégal ce soir et qu'il prend une danse tactique, ok. Mais s'il fait pas la Coupe du Monde avec le Maroc, moi, sincèrement, je trouverais que la gestion de Legja, elle est pas du tout cohérente.
Non, mais c'est pour moi, c'est...
C'est impossible.
Ouais, c'est impossible. Ouais. Ce qu'on disait notamment
c'est
hier.
C'est impossible aujourd'hui qu'au début du tournoi.
Voilà, il s'est remis en question. Il a fait des choix forts. Après un match, ça reste un match.
Il s'est affirmé aussi parce qu'il y a énormément de pression. Alors, on sort 2 secondes du terrain, mais bah, ça joue aussi. Il a beaucoup pris la pression sur lui, Regragui, avec sa conférence de presse où. Il est un peu provoque, et ça on va pas se mentir, nous on aime bien les journalistes, mais il sort pas du cadre non plus. Il a pas dit de dinguerie, c'était encore le premier à dire il y a deux jours.
Après la fin.
Voilà, non, sûrement, ça à mon avis, ouais.
Il a rappelé que c'était qu'un match de football au final, et qu'il y avait encore d'autres objectifs derrière pour le Maroc.
Que le Sénégal ça restait un pays frère, qu'il fallait pas, il serait ennemi pendant 90 minutes, mais ami dès le coup de final, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, même dans la communication, je trouve qu'il a très très bien géré son événement. Il s'est pas une fois, et ça aurait pu le tenter comme un Belmadi à l'époque, vraiment énervé sur les critiques. Moi, à part le seul truc que je lui reproche sur toute la CAN et un peu l'avant-CAN, c'est son Brésil-Afrique. Ça, il aurait pu le garder. Voilà, ça, la prochaine fois, Walid, on le met de côté, on le garde pour les débats entre potes. Mais à part ça, je trouve que surtout, c'est minime hein, ce que je dis. À part ça, sur tout le reste, ça a été parfaitement géré. Donc, avantage Regragui parce qu'il était à la maison. Mais moi, j'ai juste envie de regarder les deux coachs et de leur dire bravo et merci.
Juste avant de parler du Maroc un peu plus, on va regarder les cotes de notre partenaire Winamax. Ce sont les dernières de Génération Africa, les cotes de Winamax. Et donc, pour ce soir, on en avait déjà parlé hier, ça a un petit peu évolué par rapport à hier. Le Maroc annoncé à 2,30 pour la victoire finale, 2,75 pour le match nul, 3,85 pour le Sénégal. Est-ce que vous maintenez vos pronos d'hier? Je sais que Seb parlait d'un match nul et Sam, je me souviens plus, tu avais dit...
Maroc, je crois.
Maroc, c'est ça.
Ouais, mais peu convaincu.
Non, moi je reste sur le nul. Je reste sur le nul...
Tu veux qu'on finisse tard?
Ouais, mais c'est... Et alors, j'ai même les tirs au but.
Je vais pas être mesquin. Il y a un changement de dernière minute, me prévient à l'instant Johan Bredov qui est avec nous pour les compositions d'équipe. Antoine Mendy va remplacer Crépin Diatta dans le 11 de départ du Sénégal, apparemment.
Coup dur parce que Crépin Diatta fait une super canne.
Ouais. Ouais, non, ça change votre pronom ou pas?
Non, mais...
Non, ça reste un joueur qui a pas eu... beaucoup ou pas de minutes?
Non, quasiment pas de minutes. Il joue contre le Bénin, je crois, mais je suis...
qui peut jouer latéral droit, mais qui peut aussi qui est utilisé aussi dans l'axe. C'est un pur Marseillais.
Et puis non, mais il va surtout avoir peut-être le meilleur joueur en 1 contre 1 de cette CAN pour l'instant, qui est Abdé, quoi. On se souvient de notre ami Ousmane Samuel qui est toujours par terre sur le dribble lors de la demi-finale. Donc,
ouais. Disons que sur les profils, tu sais, ça correspondait mieux Diatta. C'est sur les changements d'appui.
Peut-être tu as un pépin physique. L'entraînement, il a été testé une dernière fois.
Pour Antoine Mendy, c'est plus puissant. Peut-être que c'est plus compliqué à se retourner. Puis bon, surtout c'est quand t'es pas prévu de dernière minute.
Ouais, franchement, c'est tout ou rien.
Voilà, où ça rentre, où tu rentres de suite dans ton match, tu prends le dessus sur ton adversaire direct, ou alors
c'est déjà arrivé de rentrer, enfin, de pas devoir démarrer et 3 minutes avant le match, on dit allez, c'est.
Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé.
Et t'es prêt ou pas?
Il faut jouer simple en fait.
Surtout option finale là.
Non, mais c'est parce que. faut jouer simple, mais il est en finale.
Mais c'était pas latéral droit.
Ouais. Mais. Parce que rentrer comme ça, dernière minute sur une finale, juste avant la.
Bah, quelque part, si t'as peu joué pendant la compétition. Et que, imaginons, Diatta était suspendu. Donc ça veut dire que tu prépares ce match. La pression qui monte. Là, à la rigueur, il n'a pas eu le temps de gamberger.
Il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Maintenant, il sait que.
J'essaie de lui trouver des trucs, mais.
Tu as raison. On va arrêter.
Mais du coup, moi, je reste sur ma cote Maroc, du coup, encore,
très bien.
Encore plus.
Match 2, les Maroc.
Et combien on a la cote de Mendy buteur?
Là, tu me chauffes un peu trop, mais bon.
On doit être pas loin de 50, à vrai dire.
Restons focalisés sur le Sénégal, justement, avec donc ce changement de dernière minute dans le 11 de départ de Pape Thio, Antoine Mendy qui remplace Crépin Diatta, donc, pour démarrer cette finale. Le Sénégal qui joue donc sa 4e finale de Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire après 2002, après 2019, 2022 et donc cette année. C'est la 3e finale également sur les 4 dernières éditions. C'est une régularité. Et dans ces finales, on aime toujours trouver des petites histoires particulières. Et il faut dire que là, il y en a une qui est magnifique. Elle concerne un garçon qui s'est révélé sous nos yeux sur ces derniers mois grâce à un certain Luis Enrique. On va parler du jeune Ibrahim Mbaye, l'ailier du Paris Saint-Germain qui fait partie de ce groupe sénégalais. 17 ans, lancé dans le grand bain par Luis Enrique au PSG, pris par Pape Thio pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Des entrées qu'on a vues à plusieurs reprises assez salvatrices, franchement, de Ibrahim Mbaye, qui a la particularité, surtout, et on pense à la famille Mbaye, d'avoir un père sénégalais et une mère marocaine. Donc dans la famille, c'est vrai que ce soir on est bien représenté en finale, et je vous incite à aller regarder sur le site rmcsport.fr un super article.
J'ai vu qu'il supportait le Sénégal quand même.
Qui a été écrit notamment en compagnie de Fabrice Hawkins. Et voilà, toute la famille ce soir sera derrière le Sénégal, parce que il n'y a pas plus fort que l'amour d'une mère pour son fils. Donc même si ça arrange bien le père Abdoulaye là-dessus pour le coup, mais voilà ce qu'il disait du côté du clan Mbaye pour ce soir. Pour nous, c'est la finale rêvée. Le Sénégal et le Maroc sont les deux nations d'Ibrahim. On sera tous pour le Sénégal, mais parce qu'on sera tous pour Ibrahim. Finale rêvée, en tout cas pour le papa Abdoulaye, qui est très fier de voir son fils représenter le Sénégal. Mais il dit, notre pays, finalement, c'est le Séné-Maroc, chez nous. Et Ibrahim Mbaye, qui pourrait, au-delà de cette histoire magnifique en famille, surtout célébrer ses 18 ans samedi prochain, avec peut-être un titre de champion d'Afrique à la clé.
Plus une Ligue des champions.
Oui.
Voilà, non, mais c'est pas
tu
mal.
Tu parles de la prochaine ou de celle...
Non, celle de celle qui okay. a déjà gagné. Donc c'est... Non, mais c'est pas mal pour oui. le... Tu vois, parce que moi, mes 18 ans, quand il y a eu le film de ma vie...
Tu coches les
joueurs qui sont réalistes. Il n'y avait pas de Ligue des champions.
Après, peut-être qu'il en gagnera une deuxième à 18 ans.
Hein. Aussi, mais ce que je veux dire, c'est non, mais ce serait déjà pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est la belle histoire.
Il devrait disputer, a priori, une autre coupe du... une première Coupe du Monde aussi. Dans...
Mais quand tu sais que c'est très, très dur de gagner des titres...
Ouais.
Des fois,
tu ne sais jamais quand tu vas rejouer une finale quand on joue.
Non, mais il voilà. y en a un, on y pense qu'il y a un joueur incroyable, Dimitri Payet, qui c'est, enfin, c'est une anomalie.
Oui, oui.
Quand tu te dis à cet âge-là, enfin, ouais, moi, ça n'a rien à voir, mais avec Nantes, on a gagné deux Coupes de France de suite très tôt. Enfin,
Et on gagnait deux de suite, voilà.
Et après, derrière, j'ai pu gagner de titre. Non, mais c'est pour te dire, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre.
Non, mais par exemple, il revient en club, il va voir Achraf Hakimi, qui lui dit, moi, un des objectifs de ma carrière, et j'ai déjà une très très belle carrière, c'est de gagner une CAN. Lui, à 17 ans, il aurait... Enfin, c'est vrai que du coup, ça dérègle un peu, mais au-delà de ça, c'est la belle histoire, c'est surtout pour lui, ce qu'il a été capable de montrer sur cette CAN, parce que moi, j'aime beaucoup Ibrahim Baye, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse être autant un impact player dans une telle compétition. On l'a vu au PSG que c'était un joueur intéressant, très, très, très intéressant, même quand il rentre, etc. Mais de là à ce que, quand il rentre, ça pue le danger pour l'équipe adverse, au point que j'ai l'impression que c'est un joueur qu'on connaît déjà depuis 4-5 ans, qui affole toutes les défenses européennes depuis des saisons, qui est déjà roublard, qui est déjà... Enfin, je trouve que la vraie prestation, elle est là. Et donc, je pense que la famille, effectivement, Sénégal-Maroc... Peu importe qui gagne ce soir, ils peuvent être déjà très, 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 très fiers de la compétition du fiston.
On en est sûr que c'est le cas, mais une finale a toujours besoin d'héros inattendus aussi. Quand on a vu les superbes entrées qu'il a déjà fait dans la compétition...
Antoine Mendy, le héros inattendu, je crois.
Ah oui, alors là, c'est voilà. Le truc de dernière minute qui m'explose mon conducteur d'émission, parce que Ibrahim Mbaye devait être donc cet héros inattendu. Alors, c'était Antoine Mendy, rentre, marque et tout, vous l'avez dit, hein, cote à 1008, voilà, ce que vous voulez. Mais bon, sur Ibrahim Mbaye, sur, franchement, juste la dernière année qui vient de passer, il n'y a même pas 18 ans encore, c'est incroyable comme histoire, et il doit beaucoup aussi à lui-même, mais à Luis Enrique, et cette politique au PSG d'avoir choisi de ne pas trop recruter au Mercato, de lancer les jeunes, et on l'a vu en Ligue 1, il y a eu des apparitions, ou même en Ligue des Champions, des apparitions, c'est vrai, un petit peu compliquées pour lui, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, quand on est joueur du Paris Saint-Germain, quand on est joueur d'une équipe championne d'Europe, on subit le lot des critiques et on est épié de partout, et au final, ce qu'il est en train de réussir à faire sur un an en prenant la page complète, c'est hyper fort.
Tu vois quand même qu'il a, notamment ça se voit par rapport à ses partenaires, que l'adaptation elle se passe hyper bien, et quand t'es performant, on te donne le ballon, et on l'a vu, enfin on l'a vu dans les conférences de presse d'après match, enfin tout le monde était unanime sur l'impact qu'il pouvait avoir sur les minutes qu'il a pu jouer.
Petite pause. Cote à 20 pour le but d'Antoine Mendy, me dit mon cher Adrien Jacupi, il dirige cette émission.
Et bye. Là, voilà, comme ça, on voit qui est le plus inattendu, c'est pas nous qui parlons.
Comme il est remplaçant.
Vos desiderata, là, vous les écrivez, et puis on leur demandera en régie. Quoi.
On fera passer nos demandes avant la prochaine fois.
Non, pour rester sur Mbaye, forcément, puisqu'on regarde forcément tous les matchs du PSG ici, on suit l'évolution en Ligue des Champions. Ça sera encore le cas à partir de mardi avec le match face au Sporting. Mais l'évolution d'Mbaye sur un joueur comme ça aussi jeune, Seb, c'est prodigieux.
Ah, complètement. Après, il y aura forcément, parce qu'à cet âge-là, il y a aussi beaucoup d'insouciance. Tu prends ce que tu as à apprendre, à la rigueur, tu réfléchis pas trop, tu joues avec tes qualités intrinsèques. Après, c'est plus facile peut-être aussi des fois de s'exprimer avec les potentiels qu'il y a au Paris Saint-Germain quand tu es dominant, et pareil avec le Sénégal. Sans minimiser, hein. Mais après, comme pour tout, après c'est la confirmation. Il faudra attendre le moment où ces joueurs-là seront, où lui sera un titulaire. Là, c'est pas juste on rentre un quart d'heure, 20 minutes. Donc il y a un vrai process. Ce qui est sûr, par contre, c'est que c'est un futur grand talent du football et sénégalais, voire mondial, s'il confirme.
5,50 pour le but d'Ibrahim Mbaye ce soir en finale. Hein. Bah, à moins que Mendy, hein, c'est sûr. Avant de passer au Maroc, vos top 3 des joueurs sénégalais de cette Coupe d'Afrique des Nations, les 3 noms que pour vous, vous avez envie de mettre en avant avant de disputer cette finale qui va se tenir dans 12 minutes maintenant à Rabat. Je commence avec Sam, tiens, ton top 3 sénégalais. Tu m'as dit De Gueye et un Mané.
Exactement, en troisième Pape Gueye, parce que je trouve qu'il a l'image de déjà son premier tour en Côte d'Ivoire. C'est un joueur très très intéressant dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, moi je suis assez satisfait de ce qu'il est capable de faire, en plus de sa qualité et de ce qu'il apporte au milieu. Il est aussi énormément décisif, et ça, dans une compétition où tu as 7 matchs, c'est pas à négliger. Sadio Mané, parce que j'aurais pu peut-être mettre un Illiman Diaye aussi, mais je trouve que Sadio Mané a porté ses responsabilités dans cette CAN, avec notamment... Pour moi, la demi-finale change beaucoup de choses. Ce but contre l'Égypte, à ce moment-là du match, pour moi, quelque part, c'est lui qui tire son équipe vers la finale. Et ça, par rapport à toute sa compète, je suis obligé de le récompenser. Et je termine par, pour moi, le meilleur Sénégalais pour l'instant sur cette CAN, c'est Idrissa Gueye, que j'ai trouvé...
Capitaine ce soir, donc.
Capitaine, donc, ce soir, à la place de Koulibaly, que j'ai trouvé impeccable quasiment à chaque sortie. Notamment les deux derniers matchs contre l'Égypte et le Mali, qui étaient des matchs où on a eu un peu plus besoin d'un Gana Gueye que sur les autres rencontres, parce que c'était un match compliqué, parce qu'il fallait gagner cette bataille du milieu de terrain, parce qu'il ne fallait pas avoir cette seconde d'inattention. Et là-dessus, bah, Gana Gueye, pour moi, est un des très belles surprises de la CAN, une de ses dernières aussi, sûrement sa dernière d'ailleurs.
Et le top 3 des Sénégalais sur cette CAN 2025 pour Sébastien Piocelle, on sent la fibre du milieu de terrain.
Ouais, après j'ai voulu faire, même pour le Maroc, j'ai voulu faire un par ligne.
Alors d'abord Sénégal.
Alors c'est vrai, Sénégal, donc Niakate.
Ouais.
Parce que aussi Koulibaly a été suspendu, là il est suspendu et je trouve qu'il a pris le leadership, c'était pas évident, déjà sa saison à Lyon elle est très bonne et je l'ai trouvé vraiment très très intéressant depuis le début de la CAN. Pape Gueye après, ouais, forcément, ouais, derrière c'est milieu, et décisif aussi, toujours dans les bonnes zones, beaucoup de prises de risque, j'ai envie de dire un Pape Gueye taille patron. Il y a Gana Gueye et on sait que derrière il y aura la suite, quoi, avec un autre Gueye, donc quoi qu'il arrive. Et puis c'est vrai que j'aurais pu mettre Sadio Mané forcément, mais j'ai préféré aller sur Illiman Ndiaye parce que j'aime son côté dynamite. Alors c'est sûr qu'il réussit pas tout, mais déstabilisateur. Ça se trouve, ça peut être sa finale là aussi. Il est capable de tout et je l'ai vraiment connu à l'OM, on va dire, même si ça n'a pas été son meilleur moment. Mais franchement, je profite de joueurs que j'adore et ça peut être un joueur de finale d'ailleurs.
Voilà pour le Sénégal à 10 minutes maintenant du coup d'envoi de la grande finale. On va parler du Maroc également et sur ce focus marocain, on va parler de Brahim Diaz notamment puisqu'il a été l'étoile du Maroc et probablement MVP si jamais il y a victoire finale ce soir. Brahim Diaz, on rappelle, ses 5 buts en 6 rencontres dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et s'il marque ce soir, donc en 4 buts en finale, il deviendrait le premier joueur à inscrire un but lors de 6 rencontres d'une même édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour résumer le poids de cette CAN avec ce que représente Brahim Diaz qui va rentrer derrière en club au Real Madrid. Il va avoir des changements puisque ça ne sera plus le coach qu'il connaissait d'avant non plus, puisque Arbeloa a pris les rênes de Xabi Alonso il y a quelques jours.
Chabi, voilà,
et peut-être une réorganisation dans le vestiaire madrilène. Mais Brahim Diaz se sera révélé au monde entier, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore très bien, via cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une Coupe du Monde aussi dans 4 mois. Est-ce que Brahim Diaz, voilà, c'est un des joueurs qui... Il faudra cocher en fait sur notre feuille des joueurs à suivre à la Coupe du Monde, parce que quand on sort un tournoi quand même de cet acabit, ça devient un nom à retenir. Et comment vont se dessiner du coup ces 4 prochains mois pour Brahim Diaz pour vous?
C'est la prise de pouvoir pour moi, cette CAN. Je l'avais dit il y a une ou deux semaines, à défaut d'être le roi du Maroc parce que la place est prise, c'est le roi de la CAN. Même si, on l'a dit tout à l'heure, la légende, la vitrine, c'est Achraf Hakimi parce que c'est aujourd'hui le joueur qui a le plus accompli de choses. Mais ça reste un joueur latéral droit, Hakimi. C'est-à-dire que même à la pleine possession de ses moyens et de son talent, ce ne sera pas par lui que tout pourra passer par rapport à son positionnement sur le terrain. Et c'est là où Brahim Diaz, pour moi, a pris le pouvoir aujourd'hui dans cette équipe du Maroc, c'est que Il a montré qu'il était capable d'être important dans le jeu, d'être important dans les stats, d'être décisif, de porter son équipe dans un moment compliqué. Voilà, c'est la canne de la prise de pouvoir pour lui. Aujourd'hui, c'est plus qu'un joueur marocain. C'est le joueur principal de cette équipe de Regragui. C'est le joueur sur lequel les adversaires vont se focaliser. Tout aussi important que les autres. Hein. Mais en tout cas, c'est lui le danger principal.
Le contexte qui l'attend au retour au Real, le contexte qui l'attend en cas de victoire finale ce soir, la Coupe du Monde aussi qui se profile, moi, année incroyable pour Brahim Diaz. Hein,
moi, ce que j'ai aimé, c'est sa prise de responsabilité, parce que il avait, je dis pas qu'il avait tout à perdre, mais bon, il a tout gagné, parce que même dans des matchs où on l'a un tout petit peu moins vu, ça a été l'impact player. Quand il a fallu tirer un penalty, il a pris ses responsabilités. Non, franchement, il fait une canne incroyable, pas seulement en termes de statistiques, c'est devenu, voilà,
Il ne représente joueur... pas l'évolution aussi de Walid Regragui dans ses idées, puisque tu parlais de choix forts aussi, mais avant cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas non plus décidé d'avance que Brahim Diaz allait être le leader impactant de cette équipe. Hein, et il fallait le montrer aussi. Et...
En tout cas, ça correspond très bien avec le joueur qu'il a derrière lui dans le 11 de départ. Puisque ça rentre beaucoup, c'est assez libre, donc forcément...
Du côté droit, Diaz, Hakimi, voilà, en Coupe du Monde, il y a peu de pays qui auront envie de se taper ça quand même.
Il y a peu de pays qui auront un côté droit comme ça aussi.
Et puis petit à petit, voilà, il y a des automatismes, on en parlait encore hier, ils ne se connaissaient pas. Bien sûr, quand tu as deux très bons joueurs de foot, en général, le QI football, il suit aussi. Mais mine de rien, après, t'as le, si en plus de ça, parce que ça reste à vie, s'il gagne cette CAN à domicile... en jouant l'un derrière l'autre, forcément que c'est des choses marquantes qui vont les aider encore à s'améliorer par la suite, même s'ils sont pas au quotidien ensemble.
Puis a priori, sauf accident, blessure, il devrait être de la partie pour 2030.
Oui, bien sûr.
Voilà, il sera encore dans
la. Il représente aussi ce projet Regragui qui, parce que quand on regarde la liste aujourd'hui de 2022 qui fait quatrième de la CAN, de la Coupe du Monde, pardon, lapsus, on est assez étonné de voir qu'en fait cette liste par rapport à l'équipe d'aujourd'hui. Elle paraît beaucoup, sur le papier, hein, beaucoup plus faible. Et moi, je trouve qu'elle représente aussi l'évolution du Maroc. C'est que justement, depuis cette quatrième place, on a pu ramener des joueurs comme Brahim Diaz en sélection, et tant d'autres. Hein. El Aïnaoui, El Khanou, même El Khanou, c'était déjà là, mais il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés depuis, qui sont des vrais, vrais gros joueurs.
Il y a une tendance
générationnelle. Mais tout en gardant l'esprit groupe.
Exactement, gardant l'esprit groupe. Mais là, c'est plus des gros, gros joueurs africains qui ont intégré cette sélection. C'est des gros, gros joueurs mondiaux. Et donc, je trouve que...
Joueur du Real Madrid, voilà.
Hein. Ah voilà, hein, t'en as pas beaucoup, hein, qui dans des sélections au-delà de l'Afrique, qui peuvent se targuer d'avoir un joueur de cette trempe-là.
On rappelle que le Maroc court après sa deuxième CAN après 1976. C'est les 50 ans pile pour raviver les souvenirs. La première finale depuis maintenant 2004, donc 22 ans pour boucler la boucle ce soir. Et ce coup d'envoi dans quelques minutes. Le top 3 marocain de la compétition pour Seb et Sam. On commence avec Seb, tes 3 marocains de cette CAN 2025.
Pareil, j'ai fait un pari. Alors, excusez-moi pour les gardiens. J'aurais pu mettre...
Je les embrasse, voilà. Bien sûr.
Achraf Hakimi. Forcément, on en a beaucoup parlé, mais au-delà du talent du joueur, c'est aussi la manière dont il est arrivé dans cette CAN et tout ce qu'il a fait pour être à ce niveau-là. Parce que, ah oui, on va pas le plaindre, hein, il était certainement dans les conditions optimales pour revenir pour la CAN, mais bon, n'empêche que ça a dû être un travail de fou pour être à ce niveau-là et rentrer dans cette CAN et finalement être capitaine ce soir pour la finale.
Il y en a des joueurs de Ligue 1 qui sont pas allés alors qu'ils auraient pu être dispo à peu près qu'au même moment, plus à la CAN.
C'est clair, donc il a fait un gros travail fourni.
Au milieu.
El Aïnaoui, hein, au-delà du très bon joueur qu'il est, c'est aussi le repositionnement, et ça c'est dû aussi à Walid Regragui, mais franchement, je pense qu'il a fait que des très bons matchs, peu importe qu'il était devant la défense comme c'est le cas depuis 3 matchs, ou relayeur, et je pense qu'il a mis tout le monde d'accord au pays.
Et puis
Saïbari, qui est, alors, je le mets attaquant, mais bon, qui lui pour le coup a été remis au milieu. Mais pareil, encore une fois, il y a le côté donc plutôt tactique de Regragui, mais comme il l'a dit, c'est travail pour l'équipe, travail de sap, et c'est Et si par exemple des fois un Brahim Diaz brille, c'est aussi qu'il y a un Saïbari qui est dans les parages.
Le top 3 de Sam côté marocain.
Yes, ben en 1 j'ai mis Brahim Diaz, on vient d'en parler. En 2 El Aïnaoui, je laisse Seb qui est largement plus expert que moi du poste.
Et toi tu aimes les gardiens.
Et moi j'aime les gardiens et je vais mettre Bono quand même parce qu'effectivement la séance de péno contre le Nigeria elle est là. Il a aussi un ou deux arrêts à faire contre la Tanzanie et contre au premier tour contre la Tanzanie et contre le Cameroun.
Et souvent d'avoir un grand gardien ça aide à gagner des trophées.
Et voilà, et puis la séance de tir but, cet arrêt improbable qui nous sort, enfin voilà, et puis il représente tellement de choses, je trouve aussi qu'on parle peu de lui, mais depuis que Bono est là, le Maroc a aussi passé un cap parce qu'ils ont un très grand gardien, c'est pas toujours évident, et donc voilà, Bono pour moi il fait partie du top 3 de cette CAN parce qu'il l'a plus que réussi lui aussi.
Une dernière minute avant de passer à cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, moi je voulais saluer une autre belle histoire après celle d'Ibrahim Mbaye côté sénégalais, celle d'Adam Massina côté marocain, parce que lui aussi a eu beaucoup de critiques, il a fallu remplacer Romain Saïss, il y a eu plusieurs essais pour Walid Regragui, et lui qui a été victime d'une terrible histoire enfant, puisqu'on le rappelle, il a perdu sa mère quand il avait 2 ans et aussi un père alcoolique, et il a été finalement adopté par une famille italienne très très jeune, ce qui lui a valu cette étiquette de double nationalité, et plutôt de dire c'est le plus italien des Marocains, ou en tout cas il est très italien, Adam Massina. Et sur ses qualités, on sait que ce ne sera jamais le défenseur de l'année, mais il a réussi à s'imposer finalement dans cette charnière centrale. Le Maroc a encaissé très très peu de buts. C'est aussi une des belles histoires de cette CAN aujourd'hui, de pouvoir tenter de soulever un trophée avec le Maroc et forcément de participer peut-être à un moment historique du pays. Donc moi, je voulais souligner cette belle histoire d'Adam Massina. Voilà pour les dernières secondes. On va revoir une dernière fois, pour la dernière fois même, le tableau complet de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. La dernière minute avant de filer à Rabat. Je vous rappelle, soirée spéciale sur RMC en ce moment avec Nico Jamin, avec Aurélien Tiercin à Rabat pour commenter cette rencontre sur RMC. Puis il y aura l'After CAN à partir de 22h en direct de Rabat, 23h avec Gilbert Ribois et toute l'équipe pour débriefer fait cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un immense merci à ces deux garçons qui ont été souvent là, Sébastien Piocel, Samuel Vasselin, merci
à toi,
à les amis.
Ah non, pardon.
À demain, ouais, là c'est la mauvaise partie, mais on va regarder le match ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été tout aussi nombreux tout au long de ces soirs de match durant cette Coupe d'Afrique des Nations, et merci à toute l'équipe qui nous a entourés durant ces plusieurs semaines autour d'Adrien, autour de Théo, Samantha notamment, Brian également, et puis tous ceux qui étaient en régie pour nous accompagner. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Et puis on vous souhaite la meilleure finale possible, Maroc-Sénégal. C'est comme ça que la CAN 2025 va s'achever. Merci et bonne soirée à tous. Bye bye.